Alors, de visite dans une église, étant pasteur, ayant évidemment la prédication souvent le dimanche matin, ce n'est pas facile de choisir un message. Et finalement, le sujet est arrivé à mon esprit au sujet du prix de la consécration du disciple. Et je vous invite sans plus tarder à tourner dans vos Bibles en Marc chapitre 8, verset 34, et nous lirons jusqu'au verset 38. Marc chapitre 8, verset 34 au verset 38. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé les caractéristiques du vrai disciple. Vous savez, dans notre langage, on dit « lui, c'est un chrétien », mais lui, c'est un disciple, comme si on devait faire une distinction entre être chrétien et être un disciple. En fait, le mot « chrétien » se trouve trois fois dans le Nouveau Testament, et c'est vrai que le mot « disciple » se trouve quelques 276 fois, me semble-t-il, dans le Nouveau Testament. Et en fait, le mot « chrétien » a été donné aux disciples qui s'apparentaient tellement au caractère du Seigneur Jésus qu'on les appelait chrétiens, des petits Christ, comme Christ. Et la question est de savoir, est-ce que ma vie aujourd'hui est telle que si le monde n'existait pas de chrétiens, on dirait, voilà, oui, ce sont des chrétiens. Ils ressemblent tellement à leur maître qu'on peut dire que ce sont des petits Christ, des comme Christ. Le mot disciple vient d'un verbe grec qui signifie enseigner, étudier. Le disciple de Jésus-Christ est celui qui est enseigné par le maître. Parce qu'il est enseignable. Et une fois enseigné, il a le désir aussi de faire des disciples et de répondre à l'ordre de Dieu qui a dit « Fais de toutes les nations des disciples » parce qu'une fois qu'il a été enseigné, il désire aussi passer et transmettre ce qu'il a reçu au pied de son maître. Un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui veut suivre uniquement l'enseignement de son maître et sa parole. Qui veut ressembler, imiter à son maître dans son caractère. Oh, bien sûr, le Seigneur Jésus nous a laissé sur la terre des traces, n'est-ce pas, de géants. Et nous, nous marchons et parfois nous trébuchons. Je me souviens lorsque nous allions au bord de la mer avec mon papa et notre famille, il marchait devant et avec ses grands pas, n'est-ce pas, au bord de l'eau, j'essayais de mettre mes petits pas dans ses pas et parfois je trébuchais. Et je tombais, il me prenait par la main. Alors le Seigneur Jésus a laissé des traces sur la terre de bonté, d'humilité, d'obéissance parfaite, de dépendance avec Dieu le Père. Et parfois, nous qui voulons le suivre, reconnaissons que nous trébuchons. Nous ne sommes pas toujours parfaits comme notre Père Céleste voudrait qu'on soit parfait. Mais nous marchons humblement. Et nous nous repentons, nous confessons notre péché afin de demeurer en communion avec lui parce que nous voulons connaître et rester en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, peut-être que c'est un rappel, mais le Seigneur nous rappelle ou veut nous souligner qu'est-ce que c'est qu'un disciple. Alors, dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus a laissé au moins 8 caractéristiques, traits de caractère du vrai disciple. Et bien sûr, dans le cas de cette étude ce matin ou de cette prédication, nous ne pourrons pas regarder l'ensemble des caractéristiques parce que ça demanderait plusieurs messages. Mais la première caractéristique que le Seigneur a laissée, il a dit que ceux qui demeureraient dans sa parole, ce seraient ceux-là qui seraient de vrais disciples. Le vrai disciple demeure dans la parole de Dieu. Un deuxième trait de caractère du vrai disciple, c'est qu'il doit être habité par l'amour de Christ. Et l'ensemble des disciples forment, n'est-ce pas, un oasis d'amour quelque part dans cette terre, sur cette terre, où les gens qui nous voient disent, voyez comme ils s'aiment. C'est le signe d'être disciple de Jésus. La Bible dit aussi en Luc 14 qu'on doit aimer Jésus par-dessus tout. Aimer Jésus par-dessus tout, ça veut dire lui laisser la première place en toute chose. La Bible dit aussi qu'on doit renoncer à tout ce que l'on possède. La Bible dit aussi en Jean 15 que le disciple est celui qui porte du fruit, encore plus de fruits et beaucoup de fruits. Ce serait passionnant ce matin de regarder ne serait-ce que le chapitre 15 de Jean, qui est un passage qui me passionne, n'est-ce pas, et qui montre comment le disciple porte du fruit. Et puis nous avons lu ce texte ici que j'ai choisi, où Jésus dit ceci, qu'il faut renoncer à soi-même, se charger de sa croix et le suivre. Alors encore une fois, dans le cadre de ce message de ce matin, nous pourrons esquisser qu'un trait de caractère du vrai disciple, et je vous invite à tourner dans vos Bibles, à étudier le sujet et à le compléter, ce tableau que nous allons commencer à esquisser ensemble ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire de renoncer à soi-même? Pourquoi le disciple devrait-il renoncer à soi-même et comment doit-il renoncer à lui-même? Tout d'abord, pourquoi le disciple devrait-il renoncer à lui-même? Parce que la Bible dit tout d'abord que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. La Bible dit ceci en 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix ?» Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous étions esclaves sur le marché du péché et Dieu nous a rachetés. Et de esclaves que nous étions, nous sommes devenus libérés en Christ, libres et libérés. Mais dans nos cœurs, pour celui qui nous a tout donné, nous nous sommes donnés à lui. Et dans le psaume, ou dans un proverbe, Salomon dit, et c'est Dieu qui parle, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Est-ce que vraiment nous avons donné tout notre être entier au Seigneur Jésus? Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. C'est extraordinaire cela. Une fois je me dis, mais quelle patience a le Seigneur de vivre en moi? Il me connaît. Il connaît mes faiblesses. Et malgré tout cela, il m'a scellé de son esprit pour faire de mon corps le temple de son esprit. Et nous sommes devenus des pierres vivantes. Et le Seigneur nous a racheté un grand prix, le prix de la croix. Je me souviens, alors que j'étais étudiant, j'évangélisais, je m'ai parlé du Seigneur, j'ai rencontré un ami qui était devenu notaire. Et je sais pas, j'ai eu comme une tristesse dans le cœur, alors que j'étais tellement joyeux d'habitude de partager l'évangile. Alors je suis entré dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai prié le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit ceci dans la prière, et un petit peu en vision, mais je m'entends, vision spirituelle. Il m'a dit, voilà ce que j'ai fait pour toi. Et c'est comme si je le voyais à la croix en train de souffrir pour moi. Son sang versé, ses mains percées, sa couronne d'épines sur la tête, son côté percé, en train de souffrir. Il m'a dit, Michel, voilà ce que j'ai fait pour toi, et toi, que feras-tu pour moi? Nous avons une réponse à donner à celui qui a donné sa vie pour nous. Il nous a racheté à une grande valeur, son sang. Et lorsque nous sommes sauvés pour l'aimer, le chérir, rester en communion avec lui et donner notre vie, tout notre être entier. Et parfois, il nous demande des choses auxquelles on ne pourrait jamais, Seigneur, s'attendre. Tellement son esprit nous travaille dans le cœur et va aller jusqu'au plus profond de notre être afin que nous apprenions à tout lui donner. Spurgeon disait, Seigneur de tout ou pas Seigneur du tout. Alors, nous devons un jour donner notre être tout entier. Je me souviens d'un cher frère du Tchad qui s'appelait Moulena et qui était vraiment, Justin Moulena, un cher frère dans le Seigneur avec qui j'ai appris à prier. Et il m'a raconté cette histoire, c'est que quand Toubou Mbaye, le président tchadien, pourtant élevé chrétiennement, apparemment au départ, s'est réengagé dans les rites traditionnels et notamment l'initiation. Ils ont pris des jeunes Africains pour les initier dans la brousse, à l'initiation, à l'adoration des esprits. On les lacérait sur le visage à coups de lame de rasoir. S'ils refusaient d'adorer les esprits, on les enterrait vivants avec un pieu enfoncé dans la tête. Et je dis, mais qu'est-ce que tu aurais fait, toi, si on était venu te prendre? Il m'a dit, oui, c'est un de mes amis qui était dans l'armée qui m'a averti qu'on allait me chercher. Et il m'a sauvé la vie. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu aurais fait? Il m'a dit, ben, j'étais prêt à mourir pour le Seigneur. Et le Seigneur a utilisé ces paroles pour, alors que j'étais étudiant et jeune croyant, pour briser mon cœur. Et le Seigneur m'a dit, et toi, est-ce que tu es prêt à mourir pour moi? Si un jour tu devais mourir, pour moi, est-ce que tu serais prêt à le faire? Et j'ai dû répondre. Alors, on doit être prêt à mourir pour le Seigneur, certainement par sa grâce, si ça devait être le cas, mais à donner tout son être. Et je pense à ce passage en Romains chapitre 12, versets 1 et 2, qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera d'autre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est extraordinaire d'étudier l'Épître aux Romains et de voir le plan du salut de Dieu, le péché universel qui nous amène à une condamnation universelle, la gratuité du salut, la justification par la foi, la sanctification par l'Esprit, le plan de Dieu pour Israël et son salut. Puis au chapitre 12, Paul dit en conclusion, après les 11 premiers chapitres, qu'il parle du salut de Dieu, du plan du salut de Dieu. Il est normal, parce qu'on connaît Dieu et son salut en Jésus-Christ, maintenant de se donner. Et Paul fait appel à ce qui est les entrailles du croyant, ce qui est les fibres les plus intimes de son cœur et de sa relation avec Dieu. Maintenant, je vous exhorte, comme un sacrifice vivant, ce qui sera agréable. Dieu cherche à ce qu'on donne sa vie. Mais vous savez, nous retenons parfois des parties de notre vie. Et d'abord, Dieu nous demande de donner notre corps. Et c'est une illustration de donner évidemment tout notre être ici. On ne pouvait pas offrir à Dieu des sacrifices, des animaux, des holocaustes impurs ou handicapés. Dieu voulait le meilleur. Maintenant, il cherche le meilleur de notre être. Donner notre cœur tout entier, tout notre corps, afin que nos yeux voient ce que Dieu veut que l'on voit. Que nos mains fassent ce qu'il veut qu'on fasse, que nos pieds nous amènent là où il veut nous amener, afin que tout notre être lui soit consacré. Nous n'avons qu'une seule vie à vivre sur terre. Pour qui, pourquoi allons-nous la vivre? Nous devons être des passionnés et donner notre vie au Seigneur Jésus, parce que lui a donné sa vie pour nous. Non seulement nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous sommes devenus esclaves du Seigneur Jésus, ses serviteurs, mais Jésus est Seigneur. Il est Sauveur, mais il est Seigneur. Quelqu'un a dit un jour, nous devrions donner à Jésus-Christ la même place dans notre cœur que celle qui détient dans l'univers. Alors, excusez, je vais parler un petit peu de moi. J'ai fait une thèse sur l'énergie solaire en tant qu'architecte. C'était une des premières thèses sur l'énergie solaire. Ça remonte à quelques années, vous en doutez. Maintenant, c'est beaucoup plus perfectionné, les calculs, etc. Mais j'étais passionné de voir la grâce de Dieu. On est dans un plan elliptique incliné, la Terre à 23 degrés et 27 minutes. Il suffirait juste d'un petit degré d'écart pour qu'on soit tous congelés ou tous brûlés. Savez-vous que le Soleil maigrit de 500 milliards de tonnes par jour? Nous sommes assis ici, mais déjà nous bougeons dans l'espace à quelques 50 mètres par seconde. Attachez vos ceintures. C'est incroyable de voir le firmament. Un jour, alors que j'étais jeune croyant, je suis sorti d'une maison où habitait mon papa, et voir le ciel rempli d'étoiles et la gloire de Dieu. Et je me suis senti tellement écrasé par la présence de Dieu, sa gloire, sa magnificence. Et Jésus a tout créé pour cela. Jésus est l'objet de la création, Jésus est celui aussi qui maintient la création et c'est lui qui a créé toutes choses. Il est écrit en Colossiens, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. C'est extraordinaire cela. Et quand on contemple la création de Dieu, qui serions-nous face à la croix, à l'amour de Dieu révélé en Jésus, de lui résister et ne pas lui donner toute la place? Un jour, un missionnaire du nom de Charles Studd, je ne sais pas si vous avez lu sa biographie, extraordinaire. Et cet homme-là, qui était un homme vraiment consacré au Seigneur, qui a été missionnaire d'abord en Inde, après il a été missionnaire en Chine, et puis après en Afrique. Et alors un jeune homme, alors qu'il était de visite dans son pays, en Angleterre, joie du Saint-Esprit. « J'ai pas la joie du Seigneur, j'essaie de faire toutes sortes de choses, mais je n'ai pas la joie du Seigneur, je voudrais goûter à la plénitude du Saint-Esprit. » Alors Charles Stott, qui était un homme très pratique, il a dit « Écoute, ta vie c'est comme une commode avec des tiroirs, et tu as le trousseau de clés avec chaque clé de chaque tiroir. Mais as-tu donné chaque tiroir au Seigneur qui pourrait représenter toutes les parties de ta vie ?» Et c'est un peu la même chose dans nos vies, on a un trousseau de clés, alors là oui Seigneur, il peut ouvrir le tiroir, et puis là à un moment donné, c'est, on n'ose pas le dire ou même le penser, top confidentiel, c'est mon problème, c'est moi. Mais qu'est-ce qu'on peut cacher à Dieu? On ne peut rien cacher à Dieu. Et la plénitude du Saint-Esprit, c'est d'accepter le brisement intérieur, d'être purifié de ses péchés, de reconnaître qu'on est pécheur devant Dieu, indigne devant Dieu, et de lui confesser ses fautes, et de l'accepter vivre en soi, en lui donnant toutes les clés, tout le trousseau, et pas garder quelques clés, en pensant, je vais gérer ça par moi-même. Ça demande, évidemment, certains brisements du cœur, une volonté de se soumettre à sa volonté, comme Jésus a dit au jardin de Gethsémané, non pas toutefois ma volonté, mais la tienne, afin que lui prenne tout en nous. Une autre raison, non seulement il est Seigneur, et on pourrait évidemment faire ne serait-ce que tout un message sur ce passage, mais en Marc chapitre 8, si vous tournez avec moi à nouveau en Marc chapitre 8, il y a une autre raison pour laquelle on doit tout donner au Seigneur. Il est écrit que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait-il un homme en échange de son âme? J'aimerais vous donner une illustration, malheureusement, qui était un peu douloureuse pour moi. J'avais un cher ami, Jacques Paul, il s'appelait en France, dans le sud de la France, dont les parents avaient une industrie de textile très florissante, un jeune homme riche. Il avait un bateau, un magnifique appartement en bord de mer, à la Costa Brava. J'aime tellement la Costa Brava et le soleil et la mer, etc. Il avait un bateau, il avait tout ce qu'il fallait, une grosse voiture pour la famille, une Porsche pour lui. Mais voyez-vous, il connaissait pas le Seigneur. Je me souviens quand il nous amenait de temps en temps à faire du ski nautique au lac de la Ravièche, dans la montagne noire, dans le sud de la France. Alors entre deux virages un peu pris sportivement, j'essayais de lui annoncer l'évangile. Mais il a rien voulu savoir. Et à l'âge de 35 ans, Jacques Paul a eu une maladie qu'il a clouée à un lit, duquel il n'est jamais sorti. Ses parents auraient dépensé toute leur fortune pour voir, ils l'ont amené à Paris, voir les plus grands médecins, professeurs de médecine, pour pouvoir guérir la maladie de leur fils. Mais vous savez, on ne peut pas tout acheter avec l'argent. Et cet homme est mort en laissant une femme avec des enfants à l'âge de 35 ans. Mais cet homme avait une passion, c'était la réussite, c'était avoir du pouvoir et de l'argent. Il est mort en voulant tout gagner, en fait, dans sa vie, il a tout perdu. Et parfois, il faut savoir perdre pour tout gagner. Il faut savoir être vaincu pour être vainqueur. Il faut savoir être perdant pour être vainqueur. Et l'apôtre Paul nous a laissé un exemple en l'épître aux Philippiens et dit « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et le mot grec ici, boue, c'est littéralement des ordures. Face pourtant à son instruction, sa formation, ses ambitions personnelles, quand il a évalué toute sa vie dans la balance de la connaissance de Jésus, de sa propre vie, alors il était prêt à renoncer à tout pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Le croyant, le vrai disciple, doit avoir une passion dans sa vie, c'est de connaître Jésus-Christ. C'est de connaître Jésus-Christ. Et parfois, c'est souffrance. Vous savez, dans la vie chrétienne, on aime beaucoup avoir la joie du Seigneur. Mais on oublie que le Seigneur a eu la joie du Seigneur en étant élevé à la droite du Père, Hébreux chapitre 12, après avoir souffert la croix. Souvent, la joie du Seigneur vient après la croix. C'est la croix qui nous humilie, c'est la croix qui nous brise, qui enlève l'orgueil, l'égoïsme, les passions de notre être, afin de laisser la place à Jésus dans les moindres détails de notre vie. Le Seigneur Jésus désire tout notre être. Et un jour, on passera au tribunal de Christ, un tribunal de récompense, et on sera jugé de la façon avec laquelle on aura géré sa vie, son temps, etc., son cœur. Mon Fils, donne-moi ton cœur. Alors, lui avons-nous donné tout. Vous savez, on ne peut rien cacher au Seigneur. Au moment où on pense, ça y est, le Seigneur a fait une œuvre, ben, il commence une autre déjà, s'il n'avait pas déjà commencé auparavant. Afin de nous purifier, afin de laisser vivre Jésus en nous, dans toute sa puissance, afin que nous puissions laisser paraître Jésus et que nous disparaissions. Comme disait Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il y a un prix à payer. C'est facile à dire de renoncer à soi-même et à tout ce que l'on possède, à tous nos désirs, nos ambitions. Mais il n'y a pas de succès dans la vie du croyant sans l'abandon de tout, absolument tout, au pied du Seigneur. Le succès vient du fait de tout abandonner. J'aimerais vous donner un petit témoignage d'un frère dans notre église, un jeune frère très ambitieux. Il est devenu expert comptable et à la fin de ses études, faisant son stage, son patron lui a demandé de s'associer avec lui, voyant qu'il était brillant et très capable. Et il a refusé parce que dans le travail qu'il avait, il trouvait que son patron faisait des compromis. Pas toujours tout à fait parfaitement honnête. Alors il a dit, écoutez, je ne m'associerai pas avec vous. Et le patron était vexé. Et il lui a expliqué pourquoi je suis chrétien, il a donné un témoignage, avec respect bien sûr, etc. Et il a commencé à zéro son propre bureau, mais vraiment à zéro. Il a commencé avec des tout petits contrats. Après 3-4 ans, c'est un jeune homme qui a un succès extraordinaire dans ses affaires. Il a investi déjà je ne sais plus combien d'appartements, etc. Mais il savait au fond de son cœur, et un jour il me l'avait dit, le Seigneur m'a appelé. Alors c'est un appel peut-être spécial, mais il sait que le Seigneur l'a appelé à le servir à temps plein. Il est en train de tout vendre pour aller étudier la théologie et devenir pasteur et enseignant. Il est prêt à tout vendre parce qu'il n'a pas pu résister à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu est tellement fort dans son cœur malgré le succès qu'il a et je dirais même tout l'argent, sans qu'on doit mépriser le succès et l'argent, tout l'argent qu'il pourrait avoir, il a décidé de servir son maître. Le jeune homme riche en Matthieu n'a pas passé le test. Que faut-il faire de bon pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur dit, mais qui est bon? C'est Dieu seul qui est bon. Et c'est pas par ta bonté ou tes bonnes œuvres que tu peux être sauvé. C'est juste en mettant Jésus à la première place. Et la Bible dit qu'il est parti tout triste parce qu'il n'a pas abandonné ce qu'il chérissait en premier. Il n'a pas laissé à Jésus-Christ la première place. Ce que nous avons, ce que nous croyons posséder n'est qu'éphémère. Un jour, nous l'abandonnerons. Mais nous pouvons tout abandonner au Seigneur. Et de ce rien, le Seigneur peut en faire un tout. Vous vous souvenez, le jeune homme, le garçon avec ses 5 pains et 3 poissons, il a fait nourrir la foule parce que le peu qu'il avait, il a donné. Le Seigneur l'a brisé, l'a multiplié. Et parfois, c'est en donnant le peu que nous avons, parce que nous avons si peu face à Dieu, que le Seigneur le fait fructifier. Et l'apôtre nous rappelle en Timothée, chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Nous avons besoin d'apprendre à renoncer à nous-mêmes et de laisser la première place au Seigneur Jésus. « Seigneur, tu es mon maître. » Tu es mon maître souverain. Moi, je suis ton serviteur. Parle, ton serviteur. Écoute, comme disait Samuel. Comment renoncer à soi-même? On a vu pourquoi renoncer à soi-même. Parce que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Parce que Jésus est Seigneur. Parce que nous avons un calcul à faire raisonnable dans notre vie. Perdre, c'est toujours gagner avec le Seigneur. Mais vouloir gagner, c'est perdre. C'est une mauvaise équation. Comment renoncer à soi-même? Alors tout d'abord, ce n'est pas de renoncer à soi-même, ce n'est pas la mortification. Je me souviens au Québec d'un monsieur qui m'a dit, au moins vous savez, si je ne suis pas sauvé, c'est une dame, excusez, qui me disait, ah ben moi je ne suis pas sauvé, j'ai élevé 18 enfants dans ma vie. Ben, c'est pas ça qui fait qu'on est sauvé ou pas. Ou les gens en Philippines qui se crucifient, n'est-ce pas, littéralement, et qui se laissent descendre la croix juste au moment crucial avant de mourir, parce qu'ils veulent souffrir, ou au Moyen-Âge, les gens qui se flagellaient, n'est-ce pas, avec des fouets, avec même des lanières, avec du métal, pour expier leurs péchés. Le mot expier veut dire couvrir, kafar dans l'hébreu, et ça signifie couvrir. C'est un acte de Dieu, c'est pas moi qui peux expier mon péché. C'est Dieu qui l'a expié à la croix parce que Jésus a couvert mon péché par son sang. Ce n'est pas non plus de l'ascétisme, ce n'est pas non plus toutes sortes de privations et d'une style de vie qui fait qu'on renonce à soi-même. Je me souviens, je vais vous faire rire un petit peu, enfin j'espère, je me souviens d'un copain qui était, quelqu'un que je suis dans le Seigneur, que j'avais rencontré, et il me disait, oh, moi j'apprends à... la maîtrise de soi. C'est vrai que Platon disait que la plus grande vertu de l'homme, c'est la maîtrise de soi. J'ai une deux chevaux. Je ne sais pas si vous avez connu ce que c'est qu'une deux chevaux. Moi, quand j'avais une deux chevaux, que j'étais étudiant, il fallait que je sois en descente et le vent derrière pour enfin pouvoir doubler, espérer une voiture ou un camion. Et il me disait, moi, je me contrôle. Je sais ce que c'est que la maîtrise de soi. J'ai mis une cale sous l'accélérateur de ma deux chevaux et je roule lentement. Je me dis, mais il est fou ce jeune homme. Déjà avec une deux chevaux, il faut être tellement patient. Et en plus, il avait mis une cale sous l'accélérateur. Vous savez, les hommes, c'est juste un exemple, mais les hommes essayent toutes sortes de choses pour se maîtriser soi-même. Mais ça ne marche pas. Parce que c'est Dieu qui peut seul nous maîtriser dans la mesure où il y a un échange, où on se donne à Dieu. Alors il prend contrôle. C'est lui qui devient au volant le conducteur de notre vie. Un commentateur suisse d'ailleurs, Frédéric Gaudet, a dit ceci, « Se renier à soi-même, renoncer à soi-même, littéralement dans le grec c'est se renier à soi-même, c'est-à-dire, c'est dire adieu à son moi. » J'ai bien aimé ce commentaire, c'est dire adieu à son moi. C'est-à-dire à sa propre volonté, ses intérêts personnels et temporaires pour prendre les intérêts éternels du Seigneur à cœur. Voilà ce que c'est de renoncer à soi-même. Comment devons-nous renoncer à soi-même? Eh bien, c'est d'avoir les ambitions du Seigneur. Et pour cela, mourir à soi-même. Un jour, j'ai un diacre de mon église, quand j'étais pasteur à Québec, venu me voir, comme ça, il aimait bien me taquiner, il me disait, mes condoléances, monsieur Viguier. Et là, j'étais un peu choqué sur le moment. Il dit, oui, vous êtes mort au péché. Ah, ouf, vous êtes mort au péché. C'était une bonne nouvelle, ça. Vous êtes mort au péché. Mourir à soi-même. Vous savez, c'est pas si facile que ça de mourir à soi-même. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, notre maître souverain, il a dit en vérité, c'est Jean 12, hein, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on dit avoir la main verte. Je n'ai pratiquement rien planté de ma vie, mais je me souviens les quelque chose de quand j'étais jeune que j'ai voulu planter. J'étais tellement impatient que j'ai tellement tiré que j'ai tout détruit. Il faut que la graine meure d'abord sous l'effet de la chaleur, de l'humidité. C'est la mort qui donne la vie. C'est la mort de Jésus qui nous a apporté la vie. C'est dans la mesure où je meurs à moi-même que la vie va couler en moi. Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Avons-nous une option, bien-aimés, frères et sœurs? Avons-nous une option? Lui qui a tout fait pour nous, est-ce que nous avons une autre option? Est-ce que nous pouvons garder encore notre vie pour nous-mêmes? Ou allons-nous le laisser décider de toutes choses dans notre vie? J'aimerais vous donner quelques exemples dans mes lectures missionnaires, notamment, qui m'ont édifié. J'espère que cela va vous édifier aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la biographie d'un homme qui s'appelait Adoniram Judson. C'était un jeune étudiant qui a donné sa vie au Seigneur, qui partait en Inde comme missionnaire, qui a été baptisé par immersion par un prédicateur baptiste sur le bateau qui l'a mené. À l'époque, ça prenait beaucoup de temps. Et son bateau fait naufrage en face de la Birmanie. Et c'est là où il est devenu missionnaire avec sa femme et après ses enfants. Et cet homme, par amour de ses Birmanes, a tout donné. Même sa femme est décédée. Ses enfants, dans des conditions très difficiles. Cet homme-là a été persécuté. Cet homme-là a tout donné. Mais il distribuait, il partait en pirogue, il distribuait des copies d'évangiles de Jean un peu partout, dans des endroits reculés. Et savez-vous quoi, après des années, alors qu'il repassait à cet endroit-là, des églises néo-testamentaires avaient été fondées pour montrer la puissance de l'évangile. Mais si cet homme n'avait pas persévéré en Birmanie, eh bien, ces gens-là seraient morts toujours dans leur croyance si terrible du bouddhisme et de l'hindouisme. Charles Studd, il a hérité une fortune alors qu'il était en Afrique. Il a tout donné. Il a donné à la mission de Saint-Taylor, il a donné à l'armée du salut, il s'est dépouillé de tout. Il a dit, c'est une belle occasion de faire ce que le jeune homme n'a pas pu faire, donner toute sa fortune. Et Charles Studd a tout donné, sans regret. Georges Müller, un Allemand qui a vécu en Angleterre, c'était un filou au début. Peut-être vous ne le savez pas, mais c'était un étudiant qui prenait l'argent de son père pour faire croire à son père qu'il étudiait alors qu'il passait ses nuits à faire la fête. Jusqu'à ce qu'il se convertisse. Il a fait une prière à Dieu, il a dit « Seigneur, fais que ma vie maintenant te glorifie et donne-moi une façon de le faire pour tout le restant de ma vie. » Et Dieu, vous savez, certainement que Dieu l'a suscité à créer des orphelinats, il pouvait nourrir des enfants, des centaines d'enfants, mais sans jamais avoir plus d'argent pour plus de 3 jours. Et Georges Müller a montré au monde que quand un homme se donne à Dieu et croit en Dieu, Dieu pourvoit ses besoins lorsqu'il est dans les bonnes heures préparées d'avance. Il est mort sans un centime. Il avait tout donné. Hudson Taylor, alors qu'il était étudiant en médecine, faisait des visites, il se préparait, vous savez, en Chine, et personne, aucune société voulait le recevoir pour partir en Chine et le soutenir. Mais cet homme-là avait un grand cœur pour le Seigneur. Et il se mettait à genoux sur une map monde, sur le pays, la carte de la Chine. Il priait que Dieu suscite des réveils et envoie des missionnaires. Et alors qu'il était en visite chez un monsieur dont l'épouse était en souffrance, malade, qui avait besoin des médicaments, le monsieur le suppliait de l'aider, de lui donner de l'argent. Et alors il avait juste une pièce dans sa poche. Et c'est tout ce qu'il pose pour ses études, pour sa nourriture, son logement. Alors il tournait dans sa poche la pièce dans sa main. Et puis il a compris à un moment donné qu'il fallait tout donner. Et il a donné cette pièce. C'est tout ce qu'il possédait. Il a fait confiance au Seigneur. Le monsieur était tellement reconnaissant de voir ce jeune homme étudiant qui, quand même, le peu qu'il avait, allait aider à la guérison de sa femme. Mais vous savez, une Saint-Taylor, parce qu'un jour il a donné tout ce qu'il possédait, une pièce au fond de sa poche, un jour a gagné la Chine. Dieu ne méprise pas les petites choses. C'est dans les petites choses que nous sommes souvent sondés. Comment nous comportons-nous vis-à-vis de Dieu dans les moindres choses? Dieu sait tout. Il entend tout. Il voit tout. Omniprésent, omnipotent, omniscient. J'aimerais vous citer une phrase d'un missionnaire qui s'appelait Henri Martin. Il a dit ceci: Seigneur, alors là je peux vous dire que c'est du choc d'entendre ça. Seigneur, ne permets pas que ma volonté se fasse, ni que je considère mon vrai bonheur comme dépendant dans la plus faible mesure de quelque chose qui puisse m'arriver de l'extérieur, mais comme existant, consistant entièrement dans l'accomplissement de ta volonté. Jésus a dû ma nourriture et de faire la volonté de Dieu mon Père. Je ne suis pas sûr que nous sommes conscients de tout ce que Dieu voudrait faire au travers de nous si vraiment sa volonté était la nourriture de notre cœur, dans le sens une priorité. Je ne sais pas vous, et par la grâce de Dieu, j'ai remarqué que quand ma volonté est soumise à Dieu le Père, les choses sont si simples, si simples. Mais ça demande un renouvellement de consécration quotidien. Non pas toutefois ce que je veux, mais ce que tu veux. Nous agissons beaucoup de notre propre chair, de notre propre volonté. Nous devons avoir cette passion de renoncer à soi-même pour faire la volonté de Dieu. Enfin, c'est aussi dépendre du Seigneur Jésus-Christ en toutes choses. La Bible dit, c'est extraordinaire, Jésus est le cep. Et nous sommes les sarments. C'est-à-dire que la sève coule du cep vers les sarments. C'est pas l'inverse. Nous pouvons faire beaucoup d'efforts, même prier, lire la Bible, essayer beaucoup de choses. Et ce n'est pas mal, je m'entends. Mais nous devons laisser Dieu agir en nous. Et c'est vrai qu'il faut prier, Luther disait bien étudier, c'est bien prier, et bien prier, c'est bien étudier. Laisser le Saint-Esprit, n'est-ce pas, vivre en nous, nous révéler sa volonté, évidemment, au travers des Écritures, etc. Mais nous avons besoin d'apprendre à écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à me dire ? Dans le silence de nos cœurs, à apprendre de dépendre de lui. Si vous lisez l'évangile de Jean, c'est extraordinaire de voir comment Jésus dépendait de Dieu le Père constamment. Non, il ne faisait pas sa propre volonté, c'est le Père qui l'avait envoyé. Il ne faisait rien de lui-même. Si Jésus lui-même dépendait tellement de Dieu le Père, à combien plus forte raison, nous avons besoin, nous les croyants, si faibles, si fragiles, de dépendre de Dieu et de s'attendre à lui constamment. Nous devons apprendre à dépendre de lui pour porter du fruit. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai que le vigneron, le père, prend des fois le sécateur et coupe toutes les choses, les rejetons, tout ce qui ne porte pas de fruits, il le coupe, il l'émonde afin que nous portions encore plus de fruits. Est-ce que nous portons les fruits du vrai disciple ? La seule façon pour nous, c'est de renoncer et de laisser la sève couler afin que Jésus vive en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Alors j'aimerais vous donner une petite anecdote, si vous me permettez. C'est presque la fin du message, je pense. Un jour, je rencontre quelqu'un, j'ai été avec mon épouse, nous avons été au Québec 14 ans, on a fondé une église, merci Seigneur, c'est développé. Et alors, un jour, je rencontre quelqu'un, les Québécois sont très hospitaliers, et quand on devient un peu ami avec quelqu'un, on dit, viens boire un café chez moi. Bon, moi je ne bois pas de café pratiquement, mais enfin, on peut offrir un café ou un thé, etc. Alors, il me dit d'accord. Je dis, ah, ça va. Je dis à Louis, c'est bien, on va préparer une petite collation, formidable. C'est un monsieur qui a l'air tellement ouvert, j'ai tellement hâte de continuer à proclamer l'évangile. Il arrive à la porte avec une autre personne, puis avec un attache case, une mallette si vous voulez. Je dis, oh oh, qu'est-ce qu'il vient me vendre ? Alors il regarde ma maison, il me dit, Michel, oh, ça fait plaisir de te revoir, je vois que tu as une grande famille. J'ai dit, oui c'est vrai, mais ta maison est donc bien petite. Oui c'est vrai, mais bon. Il me dit, t'aimerais pas avoir une plus grande maison? J'ai dit, oui, pourquoi pas. Puis il me dit, j'ai remarqué à la porte de ta maison, franchement pour une grande famille comme toi, t'as vraiment une petite voiture. J'ai dit, oui c'est vrai, on prie qu'on ait une plus grosse voiture. Il dit, t'aimerais pas avoir une plus grosse voiture? J'ai dit, oui. Il me dit, mais t'aimerais pas voyager? Je dis, oui, pourquoi pas. T'aimerais pas avoir un bateau? J'ai dit, non, j'ai le mal de mer. Alors, etc. Puis finalement, il fait un cercle comme ça. Il me met le sigle du dollar au milieu. Et toutes les choses que je pourrais avoir, si évidemment j'avais un peu plus de dollars. C'était le symbole, le dollar, s'enrichir. Et je me dis, mais où est-ce qu'il va en venir? Jusqu'à ce qu'ils disent, voilà, je fais partie d'une chaîne de produits que l'on vend, les uns après les autres, peut-être vous en avez entendu parler, c'est pas des mauvais produits, mais ça s'appelle Amway. Amway. C'est l'idée de la multiplication par chaîne, vous vendez quelque chose à quelqu'un qui devient ensuite votre vendeur, et ainsi de suite, et il y a des gens, semble-t-il, qui se sont enrichis comme cela. Alors moi je lui dis, mais tu sais, j'ai pas besoin de tout cela. Elle me regarde comme ça. Et je dis, oui, mais moi je suis heureux. Regarde, on peut enlever le dollar là, je voudrais mettre JC. On regarde, je dis one way, à la place de Amway, c'est des one way. Jésus-Christ, vous savez, moi je suis dans le contentement, c'est vrai, ma maison est petite, mais regarde comment on s'aime avec ma femme, on est heureux en famille. Puis j'ai une petite voiture, mais sais-tu dans la voiture, quand on va à l'église, on chante des cantiques, on est tout joyeux, et ainsi de suite. Il a été sidéré, je lui ai présenté one way. Le dollar ne peut pas être le centre de notre vie, c'est Jésus. Et dans ma vie personnelle, je le dis beaucoup, on a beaucoup d'étudiants dans notre église, je les prends à part, des fois je dis, quel est le plan de carrière pour ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire pour le Seigneur? Ils me regardent, je dis, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, qu'est-ce que tu vas faire pour le Seigneur? Ils sont tout étonnés qu'on leur pose cette question. Je dis, regarde, fais un cercle ici, mets Jésus-Christ au milieu, la parole de Dieu, puis mets dans chaque portion de cette tarte tout ce qui est ta vie. Alors la gestion de ton temps, la gestion de ton argent, ton futur mariage, ta future carrière, l'église, la façon de servir dans l'église, ta relation avec ta famille, etc. Ah oui, puis cherche dans la parole de Dieu tous les versets que tu vas intégrer dans ta vie pour faire la volonté de Dieu dans ces domaines. Parce que Jésus-Christ doit être le centre de ta vie. Nous devons apprendre, bien-aimés, à laisser le Seigneur au centre de notre vie. Des fois, nous sommes en contact avec des gens qui prêchent l'Évangile, mais leur roue est un peu déséquilibrée. Le noyau, vous savez, une roue est équilibrée lorsqu'elle est ronde et que le noyau est vraiment au centre et que la tension des rayons sont équidistants est la même. Il y a parfois des gens qui dépassent le centre. Ils parlent d'expérience, ils parlent d'autre chose. Mais nous, les croyants qui voulons être de vrais disciples, c'est souvent par la mort à soi-même, où on laisse Jésus au centre, que notre vie est vraiment équilibrée, que ça tourne rond dans nos vies. Alors, bien-aimés, j'ai voulu esquisser un petit peu ensemble ce que c'est que d'être un vrai disciple, juste par un trait de caractère que le Seigneur nous a laissé, une identité, une de ces identités que l'on doit chérir dans nos vies, renoncer à soi-même. Parce que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que de vouloir gagner, c'est perdre. Comment renoncer à soi-même? C'est de mourir à soi-même. De laisser Jésus vivre en nous jusqu'au bout de tout notre être. Car nous n'avons qu'une seule vie à vivre. Pour qui? Pourquoi allons-nous la vivre? Et laisser Jésus en premier parce que nous dépendons de lui en toutes choses. Alors je vous invite, bien-aimés, juste à prendre un temps de silence dans nos cœurs, baissons nos têtes et méditons en cela, plaçons-nous devant le Seigneur. Et je pense que nous avons besoin de donner une réponse au Seigneur. Là où nous nous trouvons, nous avons encore besoin de grandir, ou plutôt lui de le laisser grandir en nous et nous devenir plus petits. Laissons-lui toute la place. Peut-être y a-t-il quelque chose ce matin dans votre cœur qui n'a pas été encore remis au Seigneur. Eh bien, pourquoi ne pas le faire ? Chez vous, ici si vous voulez, mais pourquoi pas chez vous, sérieusement, et dire au Seigneur, oui Seigneur, prends tout. Tu as tout donné pour moi, maintenant Seigneur, prends tout. Je te donne ma vie, elle est à toi, tout mon être, corps, âme et esprit. Amen. Amen.